on va être dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, Matthew 5, verses 13 through 16. Okay. Vous êtes Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc j'ai choisi ce texte parce qu'on a cette semaine un peu spéciale. L'échange culturel qui est en fait une œuvre. Hein? C'est une œuvre, quelque chose que nous faisons. Donc quand on dit œuvre, on dit c'est le mot faire. Hein? C'est quelque chose que nous faisons. C'est une activité. Donc, dans le texte, vos bonnes œuvres, les bonnes choses que vous faites. Et donc, ce que nous faisons, des activités, les œuvres dans notre vie chrétienne qui doivent être bénéfiques. Au fond, donc, l'objectif de notre échange culturel, c'est de faire des amis. C'est d'être connu. OK? Ce n'est pas l'évangélisation proprement dit. C'est simplement, c'est un effort pour connaître des gens qui nous entourent. Et donc, c'est pour faire connaître notre église, notre association, et surtout, là, c'est sur le niveau humain. Donc, il faut aller au-delà de l'humain pour évangéliser. Mais là, cette semaine, c'est sur le niveau humain. On va enseigner l'anglais, on va faire des cookies, on va faire des travaux manuels, on va passer un film, on va chanter. Mais chanter, ça touche un peu plus sur le niveau spirituel quand même. L'échange culturel est une œuvre bienfaisante. C'est quelque chose que nous allons faire, une activité du bien. Nous partageons des activités saines cette semaine pour l'enrichissement des autres personnes. Enfin, nous créons et nous organisons ces activités, c'est pas l'Église, mais c'est Hannah, c'est Mike, c'est Shirley et c'est ce groupe d'Américains qui vont faire, qui vont animer tout ça. Et nous, en tant qu'Église, nous les entourons pour que ça se passe bien. OK? On pourrait dire, quelque part, hein, si on fait la limite de nos pensées, on pourrait dire donc que l'échange culturel est une manifestation de l'amour chrétien. Parce qu'on fait ça, parce qu'on aime Jésus et parce qu'on aime nos prochains, donc on anime donc cet échange culturel. Et dans la prédication que je vais faire, on va toucher sur plusieurs thèmes, trois thèmes. Premièrement, nous allons voir en tant que chrétien, ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne devons pas faire. Et après, on va voir ce que vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Et ce que vous faites, vous luisez dans les ténèbres. D'accord? Donc, il y a trois parties. Ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne faites pas. Et puis, ce que vous êtes et ce que vous faites. I'll just tell you guys later on what I said, okay? Because it was really late already. Donc, ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne faites pas. La chose, c'est qu'on parle ici dans Matthieu chapitre 5 des œuvres bienfaisantes que nous devons faire comme chrétiens. Mais il y a aussi plein d'autres œuvres qui sont les œuvres mauvaises, ce que sont des œuvres infructueuses et des œuvres des ténèbres. Et je vais vous lire dans 1 Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois, avant que vous étiez chrétien, autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort, la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans sa propre corps, dans sa chair, pour vous faire paraître devant lui, devant Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, on était dans les œuvres du mal, comme on a donné témoignage tout à l'heure. Et maintenant, on est lavé par le Seigneur Jésus-Christ, on est purifié, on est devenu enfant de Dieu, et nous devons vivre dans une manière qui plaît à Dieu. On lit aussi dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, for the Americans, that's Colossians 1, 21 and 22. And now I'm going to read Ephesians chapter 5, verses 8 through 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, autrefois, avant de se convertir à Jésus, n'est-ce pas? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, on voit qu'il y a des choses que nous ne faisons pas. Et nous ne sommes plus des ténèbres. Et nous ne faisons plus les activités des ténèbres. Dans Colossiens, chapitre 3 et verset 6, I'm going to read in just a moment here, Colossians chapter 3, verses 2 through 10. Dans Colossiens, chapitre 3 et verset 6, nous lisons que c'est à cause de ces œuvres de méchanceté, de ténèbres, que la colère de Dieu vienne sur les fils de la rébellion. Donc, il y a plein de raisons que les gens sont condamnés. Mais globalement, c'est à cause de leur péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que selon sa grâce, Dieu a pourvu une délivrance, un échappatoire, un salut, pas cinq saluts, hein, un salut par la foi en Jésus-Christ. Rejetons ou ignorons cette bonne nouvelle, garde une personne sous la colère de Dieu. On peut lire dans Jean chapitre 3, verset 36. I'm going to read John 3:36. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure. Dieu est déjà en colère avec le péché. Et si on n'accepte pas l'échappatoire, si on n'accepte pas la porte de secours, eh bien, on reste là, sous la colère de Dieu. Et donc, c'est important que chacun accepte l'Évangile. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Déjà, il nous donne la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu. Et dans cette nouvelle vie, on va renoncer au mal et nous allons vivre dans la lumière et dans l'amour. Donc, on lit dans Colossiens 3, 5. I'm back to Colossians 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, ce qui est l'idolâtrie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vienne sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. C'est toujours l'autrefois. Hein? Parce que nous ne sommes plus là quand on a cru en Jésus-Christ. Mais verset 8, maintenant renoncer, donc on voit bien, Dieu veut qu'on abandonne, qu'on renonce à tout un tas de choses. Il y a toutes ces choses, à la colère, l'animosité, les méchancetés, la calomnie, les paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. C'est vrai que si on ne marche pas assez dans l'esprit, on va dire des bêtises, on va faire des bêtises. Dieu ne veut pas qu'on agisse comme ça. Ne mentez plus les uns aux autres, veillez à vous étant dépouillés. C'est déjà fait, dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et donc par la suite dans la pratique, selon l'image de celui qui l'a créé, d'après notre façon de vivre, d'après le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je voulais lire dans Romains chapitre 13, Romans 13, verses 10 to 12. Aussi dans Romains chapitre 13, versets 10 à 12. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près, donc le mot salut ici, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Le salut est plus près de nous que lorsque nous aurons cru. Nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc ça nous ramène au texte de ce matin. Matthieu chapitre 5 et verset 13, vous êtes le sel de la terre, et puis verset 14, vous êtes la lumière du monde. Quand on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, vous êtes devenu. Il ne dit pas que vous allez devenir, il dit vous êtes le sel de la terre. Et je ne veux pas trop élaborer les choses, mais dans l'Antiquité, quand Jésus parlait du sel, c'était un produit qui n'était pas disponible comme ça dans les supermarchés. C'était un produit difficile à avoir. Donc, c'était une chose rare qui était chère. Ça se servait même de monnaie, de l'argent, dans certains pays, parce que c'était d'une grande valeur. Okay? Et quand on parle du sel, on parle de ses forces conservateurs, surtout dans les choses alimentaires, mais conservation d'aliments. Le poisson, la viande, le fromage, les olives, les choses comme ça. Ça relève aussi le goût. Et il y avait aussi un service, même aujourd'hui, dans l'hygiène, pour les blessures, les brûlures, le cure d'eau salée, etc. Donc, le sel est très important. Qui veut dire que, d'après Jésus, vous êtes très important. Vous avez une grande valeur quand il dit que vous êtes sel. C'est pas, voilà, un petit peu de sel, ça ne vaut rien. Et donc, quand il dit par la suite, il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Ben, il ne parle pas de votre salut, il parle de ce que vous êtes. Il dit, si vous n'êtes pas de cette force de conservation, de cette goût de divin sur la planète, vous servez à quoi? Rien pour Dieu. Vous êtes le sel de la terre, donc soyez sel. Ce n'est pas pour dire, ah, ben, vous allez perdre votre salut ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le point ici. Le point, c'est que le sel a un objectif. Est-ce que vous remplissez votre objectif en tant que sel? Donc, c'est à vous de répondre à la question, pas à moi. Aussi, il dit dans le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Donc, dans les versets qu'on a lus, on a parlé de l'amour, on a parlé de la lumière. Et ici, Jésus dit que c'est vous qui êtes la lumière du monde. D'ailleurs, il a dit que je suis. Donc, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, c'est parce que Jésus est la lumière du monde. Et Jésus a dit, je suis la lumière pendant que je suis dans le monde. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé
Je vais vous dire comme ça. Il a envoyé l'étincelle dans chaque croyant, le Saint-Esprit qui est là. Et le Saint-Esprit œuvre à travers nous pour que nous soyons la lumière du monde. Donc, ce n'est pas une lumière indépendante. Ce n'est pas EDF, par exemple, qui nous anime. Hein, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette vie de Dieu. Et nous sommes donc les représentants de Dieu. Et nous faisons lumière. Nous luisons. Vous voyez? Donc, nous sommes celles et nous illuminons la planète. Nous sommes celles et nous faisons quelque chose. Donc, Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire, Dieu n'a pas mis en vous le Saint-Esprit pour que vous ne fassiez rien. Ce n'est pas pour que vous ne faites rien que Dieu vous a sauvé et donné son esprit. Non, il a dit, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. C'est d'office. Quand on brille, ça éclaire. D'office. Si ça n'a éclaire. Franck m'a dit l'autre jour, il a fait une activité, son travail, et après on lui a posé des questions. Mais pourquoi on s'est posé des questions? Quelque chose devait luire. Il devait être attiré de poser des questions qui étaient ouvertures à une question spirituelle. C'est comme ça des fois. Okay? On ne doit pas cacher notre lumière qui est en nous. Déjà, la lumière est en nous. Et la lumière brille à travers nous. Il ne faut pas la cacher. Dieu se servira de nous quand nous laissons faire ce que Dieu veut. Donc, il a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, c'est la volonté de Dieu, afin que, donc l'objectif, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ce n'est pas les mêmes bonnes œuvres qui est dans Éphésiens chapitre 2. Ici, c'est les... Bon, je vais vous dire, j'ai trouvé des traductions là. Je l'ai écrit là quelque part. Ah, ce sont des activités bonnes. Bonnes, des activités bonnes, les activités honorables, les belles activités et les activités honnêtes. Ce sont des genres de choses que Jésus a en vue quand il parle ici. C'est notre mot quand on dit les bonnes œuvres dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. D'accord? C'est un peu semblable, mais c'est plus large dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, nous allons pratiquer quelque chose, nous allons faire des activités, que ce soit l'échange culturel, autre chose qui c'est bon, agréable, belle, bon, honorable, honnête. Et il dit que ça va glorifier votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas pour vous glorifier. Ce n'est pas pour votre honneur. Mais c'est pour, à la fin, Dieu soit glorifié. Dieu, il va à travers vous, illuminer votre entourage. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Quelques personnes, ou beaucoup de monde, ça dépend, vont se convertir. Et Dieu sera glorifié à travers la conversion de ces païens, hein, comme vous étiez, comme vous avez dit tout à l'heure, et nous sommes tous des païens, n'est-ce pas, convertis à Jésus. Et Dieu sera glorifié, mais pas seulement ici, maintenant, mais à travers l'éternité. Et ça sert à ça. Ça sert à ça. Amen. Donc, il dit, vous êtes le sel et vous êtes la lumière qui luit afin que les gens voient et que Dieu soit glorifié.